On entend parfois des personnes, trouvant qu'il est bien difficile d'avoir la foi, s'exclamer avec une fausse ferveur « Si j'avais vécu au temps du Christ, je serais devenu son disciple ». Que voilà une déclaration bien audacieuse. Elle suppose qu'il était plus facile d'avoir la foi à cette époque qu'aujourd'hui. Elle sous-entend en outre que si je suis un sceptique, je n'en suis pas responsable. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à cette phrase et même de la méditer. Jouons le jeu et posons-nous franchement cette question. Si j'avais vécu au temps du Christ, serais-je devenu son disciple? Aurais-je cru en lui? Maintenant que la question est posée, veillons à ne pas y répondre trop hâtivement, trop catégoriquement, trop positivement. Pour bien honorer cette question, il faut retourner en arrière, en ces temps où régnait Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée et Hérode gouverneur de la Galilée. Car c'est dans ce contexte historique que naquit celui que l'on appela plus tard Jésus de Nazareth. Qu'aurais-je su? Qu'aurais-je vu? Qu'aurais-je entendu de lui si j'avais vécu à son époque? Tout d'abord, après enquête, nous aurions appris qu'il était né dans une grotte, une bergerie sans doute, quelque part dans les environs de Bethléem, issu d'un couple juif plus qu'obscur. Rien de bien fascinant dans cette naissance. Nous connaissons évidemment maintenant les circonstances merveilleuses de sa naissance, mais ce sont là des faits qui n'étaient ni crus ni connus par les contemporains du Christ. Plus tard, nous aurions été les témoins de l'incrédulité de ses frères à son égard. Il était souvent le sujet de leur raillerie. Il lui disait « Lorsque quelqu'un désire paraître, il se montre au public, va donc te montrer. » Il n'hésitait pas à mettre en doute publiquement son équilibre mental. Il cherchait à le soustraire à la foule lorsqu'il attirait du monde autour de lui, car ils affirmaient qu'il avait perdu le sens, pour ne pas dire qu'il était fou. Réfléchissons un instant sur ce fait. Au moment de nous faire une opinion sur quelqu'un, ne sommes-nous pas fortement enclins à nous laisser influencer par le jugement que ses proches portent sur lui? Souvent même, c'est un facteur déterminant. Si sa famille l'accepte, nous l'acceptons. Si sa famille le rejette ou le boude, notre élan s'en trouve considérablement amoindri. Et l'enthousiasme initial fait place à une espèce de timidité prudente, voire même à la méfiance. Comment aurions-nous considéré ce jeune philosophe que sa propre famille croyait frappé d'un dérangement cérébral? Poursuivons notre enquête. Quelle place occupait-il dans la vie sociale? Exerçait-il quelques fonctions? Non. Puisqu'il s'occupait de religion, était-il sacrificateur? Non. Un chef de synagogue alors? Pas davantage. Inutile alors de demander s'il faisait ou non partie du Sanhédrin, la cour suprême des Juifs. Il n'avait pas fait de hautes études. Il y avait pourtant des universités d'importance à Jérusalem et à Alexandrie. Mais on le voyait surtout sur les routes. Allant de bourg en bourgade, il ne possédait rien. Il n'avait pas de demeure fixe. À voir les choses sous cet angle, c'était presque un indigent. Tout cela n'était pas très engageant. Si nous avions été là, aurions-nous fait confiance à ce pauvre parmi le pauvre? Aurions-nous écouté ce maître sans diplôme? Le voilà à présent qui choisit des associés. Ils sont loin de représenter l'élite de la société, ce sont des hommes du peuple sans instruction pour la plupart. On le voit en outre en compagnie des publicains et des gens de mauvaise vie. La classe la plus basse, la plus méprisable de la société, bavardant et mangeant avec eux. Non seulement les publicains étaient-ils une classe particulièrement exécrée, mais Jésus de Nazareth demande l'hospitalité à leur propre chef, un nommé Zachée. Si vous aviez été là, chers auditeurs, vous l'auriez vu se laissant approcher par une femme de mauvaise vie qui lui lavait les pieds. Il provoqua même un remous de surprise indignée dans les rangs de ses propres disciples, lorsque ceux-ci le virent en conversation avec une autre femme, à la réputation pareillement compromise. Tout cela n'était pas de nature à séduire ses contemporains. Quelle aurait été votre attitude si vous aviez vécu en ce temps-là? Peut-être à cette époque-là, disait-on déjà, « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». À ce point de sa vie publique, on parlait de lui dans tous les milieux. Et les propos que vous auriez entendus étaient loin d'être tous flatteurs. Les uns disaient carrément « c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pêcheurs ». Les autres affirmaient qu'il était possédé des démons, qu'il était fou et qu'il fallait éviter de l'écouter. Les pharisiens, eux, déclaraient sentencieusement « nous savons que cet homme est un pêcheur ». Toute l'élite du peuple, les conducteurs religieux, les chefs spirituels, tous portaient contre lui un jugement sévère. Chers auditeurs, en tant que contemporains du Christ, comment auriez-vous réagi devant ce flot de rumeurs qui courait sur son compte, unanime à le condamner? Peut-être à cette époque-là, disait-on déjà, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans la première année de ses pérégrinations à travers la Galilée et la Judée, sa popularité fut très grande. Ce devait être un spectacle impressionnant que de voir la foule se presser autour de lui pour l'écouter, jusqu'au point de se marcher les uns sur les autres. Par ses miracles et ses enseignements, il était la coqueluche des petits et des grands. La seconde année, l'élite du peuple qui se recrutait parmi les pharisiens et les sadducéens commença à se désintéresser de lui. Plusieurs de ses disciples même se retirèrent, cessant tout contact avec lui. La troisième année fut encore pire. Il ne resta bientôt plus que la compagnie des 12 et une poignée d'autres fidèles. Et vers la fin de cette année-là, il fut virtuellement seul. Puis les événements se précipitèrent. Le bruit courut qu'il avait été vendu à ses ennemis par l'un des 12, un intime. L'on vit les autres s'éparpiller comme des brebis sans berger lorsqu'on vint pour l'arrêter. On entendit l'un des siens le renier publiquement plusieurs fois de suite. Devant ses juges, il ne se trouva personne pour le défendre. Cher ami auditeur, si vous aviez été là, auriez-vous pris sa défense en face de ses accusateurs? Finalement, vous auriez assisté à son exécution. Sa condamnation à mort fut requise par les chefs religieux des Juifs, d'une part, et prononcée par le représentant de l'empereur romain, d'autre part. Vous l'auriez vu crucifié comme un brigand, entre deux brigands. La position du milieu était réservée au pire des trois. À ce moment-là, vous seriez-vous proclamé un disciple de celui que l'Église et l'État avaient choisi de supprimer? Peu de temps après, cependant, alors qu'on pourrait supposer que le rideau est définitivement tombé sur cette sombre histoire, il se lève de nouveau sur une nouvelle extraordinaire. On parle de sa résurrection. Ceux qu'il avait abandonnés pendant son jugement sont maintenant prêts à mourir pour lui. Ils sont 12, 500, 3000, 5000 et bientôt des dizaines de milliers à proclamer que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes de jadis et qu'il est vivant. Une vague déferle sur le monde, le christianisme, irrésistible mouvement fondé sur des faits irrécusables dont il n'est pas possible d'expliquer logiquement le succès autrement que par le message qu'il proclame. Est-il plus difficile de croire en lui aujourd'hui? Certainement pas, car avec les témoins qui nous ont légué un message, nous pouvons affirmer que le Christ est aussi vrai que la mort, avec cette différence qu'il est plus puissant que la mort. Il y avait certes ces miracles qui provoquaient l'étonnement le plus profond chez ceux qui en étaient les témoins et les bénéficiaires. Mais tout cela fut vite oublié lorsqu'on le vit jugé et condamné par les autorités civiles et religieuses. En fait, celui qui dit « si j'avais vécu à l'époque du Christ » ne fait que confesser qu'il lui est difficile de croire sans avoir vu. Voilà le fond du problème. Avec ces quelques remarques, nous venons de constater que le fait de voir n'est pas une absolue garantie de la foi. Parmi ceux qui ont hurlé « crucifie-le, crucifie-le », ils s'en trouvaient vraisemblablement qu'il avait vu guérir des malades, rendre la vue à des aveugles, l'usage des membres paralytiques et même ressusciter des morts. Sont-ils devenus ou demeurés ses disciples pour autant? À ceux qui aujourd'hui disent encore « ah, si j'avais vécu au temps du Christ, ah, si je pouvais voir un miracle », je voudrais dire ceci. Souvenez-vous du riche et d'Abraham dans le récit du Christ. Le riche qui est dans les tourments supplie Abraham d'envoyer un mort vers ses frères pour qu'il leur dise de se repentir. Abraham répond « ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent ». Mais l'homme reprend « non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront ». Et Abraham répond une fois pour toutes « s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. De même, nous avons dans la Bible le message du Christ et de ses apôtres. Il doit nous suffire. Il nous invite à être de ceux qui croient sans avoir vu, car ils ont l'assurance qu'un jour, ils verront face à face. Jésus a dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. » Sa parole est pour le chrétien un témoignage, un guide, un critère, une règle de foi. Chers amis, en fait, il n'est pas très important de savoir si vous auriez suivi le Christ en son temps. L'important est de savoir si vous êtes prêt à le suivre aujourd'hui. Si vous êtes prêt à le suivre partout malgré la désapprobation de l'opinion publique, malgré la force des traditions, malgré les sourires moqueurs, malgré les souffrances que peut vous causer votre fidélité, et même si vous devez vous retrouver seul, alors vous êtes vraiment son disciple.